BFM Business présente. BFM Entreprise. Croissance, la stratégie. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur de la vie des boîtes tout au long de la semaine. Vous savez, le lundi on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance, le jeudi de transmission. La croissance est au cœur du thème de cette émission. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise incubée au cœur d'un grand groupe qui a pris ensuite son indépendance. Mes invités du jour sont Nicolas Miravals, CEO d'Auris Materials Intelligence. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Laurent Julien, associé chez Lérins, vous accompagne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ravi de vous avoir tous les deux dans cette émission BFM Entreprise. On parle de croissance. C'est parti.
Le témoignage.
Nicolas, vous êtes donc CEO d'Auris Materials Intelligence, qu'on va appeler Auris tout au long de cette émission. Que fait Auris concrètement? C'est une infratech. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qu'une infratech? Alors, une infratech, c'est une société technologique spécialisée dans les métiers de l'infrastructure. Donc ici, on parle de routes, rails, ponts, tunnels, tout ce qui est de l'infrastructure de mobilité linéaire. Et nous répondons avec Auris à deux enjeux de transformation majeure de l'industrie, qui sont la transformation environnementale et la transformation digitale. Ces deux transitions, transformations, se nourrissent l'une l'autre, en fait. Et nous allons, par exemple, aborder les questions d'adaptation de l'infrastructure aux expositions et aux vulnérabilités climatiques qui s'annoncent. Ici, le digital est précieux puisqu'il permet de modéliser des datas et des quantités d'informations importantes. Nous allons aider nos clients et accompagner la mesure d'émissions et d'impact. Alors, par exemple, l'impact des émissions carbone dont tout le monde parle. Et bien sûr, les métiers de l'infrastructure, c'est un peu complexe puisque jamais deux projets sont identiques.
C'est vrai.
Et donc, il faut systématiser, il faut là aussi se renforcer de capacités digitales pour que ces efforts additionnels à de nombreuses tâches soient aussi fluides et intégrés dans les workflows.
Qui sont vos clients?
Alors, on couvre en fait l'ensemble de la chaîne de valeur de l'infrastructure, depuis les financeurs jusqu'aux autorités publiques, les sociétés d'ingénierie, les constructeurs et les fournisseurs de matériaux eux-mêmes. J'ajoute ici que les matériaux ont un impact clé dans les calculs d'émissions de carbone sur les marchés d'infrastructures.
Oui, parce que c'est là qu'on va optimiser finalement.
C'est exactement là qu'on va optimiser. Alors, pas nécessairement sur le matériau lui-même ou pas seulement sur le matériau, mais sur sa localisation, ses caractéristiques, c'est le design et le dimensionnement des ouvrages. Et là, on a des leviers qui nous apportent souvent 50% de réduction de carbone sur un ouvrage, en fonction de si on le regarde sous cet angle ou pas.
On va voir évidemment comment s'est développée cette entreprise, mais j'aimerais bien, pour avoir une idée plus précise, que vous nous donniez un ou deux projets, sans citer les clients ou quoi que ce soit, mais un ou deux projets précis sur lesquels vous travaillez, par exemple.
Oui. Je vous citerai par exemple un grand projet ferroviaire d'une centaine de kilomètres en Finlande, sur lequel on a été amené à mesurer non seulement l'impact carbone, mais le taux de circularité des matériaux, de réemploi des matériaux. C'était un projet avec une vingtaine de tunnels, une cinquantaine de ponts. Enfin, c'était un très très gros projet, dont la construction démarre cette année d'ailleurs. On était en phase préliminaire et nos études ont permis d'adopter en fait des solutions techniques qui permettaient de réduire les empreintes carbone de 21% pour être précis, et la circularité, donc le réemploi de matériaux issus de zones de déblais ou de tunnels, pour une dizaine de millions de tonnes. Donc, un impact absolument majeur.
Alors, vous avez répondu à une de mes questions qui était effectivement, est-ce qu'on calcule précisément ce gain finalement de durabilité sur ces grands projets-là d'infrastructure? Quel type de données vous analysez pour justement réussir à réduire, par exemple, les émissions carbone d'un tel projet?
Alors, on analyse tout ce qui est l'environnement du projet, et là aussi le numérique est clé, puisque en fait l'ingénierie classique a un peu de peine à concentrer toutes ces informations en même temps. Et lorsqu'elle le fait, et elle le fait hein, de toute façon, mais elle le fera volontiers une fois, peut-être deux. Mais on n'a pas cette capacité de scénarisation, d'itération que le numérique nous offre. Donc, on parle ici de, évidemment des emplacements de toutes les ressources en construction. On parle des expositions climatiques, des modèles climatiques qui peuvent être divers en fonction. Vous avez sans doute noté que dernièrement, on a changé un peu de modèle et on est passé sur une version un petit peu moins pessimiste, entre guillemets. Donc, tout ça est abordable avec le digital de façon instantanée ou quasi. Pour aider à la décision de ces grands projets et pour faire en sorte que ce discours qui est bien présent aujourd'hui dans la sphère publique eh bien, prenne corps avec des aides à la décision pour toute la chaîne sans que ce soit une couche additionnelle trop contraignante en fait.
Oui, vous optimisez en utilisant la donnée. Ça rend optimiste de voir que des entreprises comme la vôtre sont utilisées pour les futurs projets effectivement de routes, de rails qui sont construits en Europe. J'aimerais savoir, et on va revenir là-dessus, comment a été créé Auris, à quel moment ça a été créé et surtout dans quel contexte.
Alors c'est le clou de l'émission, je pense. On est issu de l'intrapreneuriat. Oui. Donc l'intrapreneuriat, c'est l'entreprise dans l'entreprise. Et donc on est issu d'un grand groupe industriel au départ d'un centre de recherche dans lequel on a eu cette idée avec mon cofondateur Renaud de Montaignac et moi-même qui venons tous les deux de cette industrie. Et on a eu cette idée de combler l'espace vacant entre la science, c'est ce que l'on connaît de tout ça, et les opérations concrètes sur le terrain. Et donc, avec l'émergence du numérique il y a quelques années maintenant, c'était une opportunité importante. Donc, on est né de cet intrapreneuriat. Puis en 2021, après quelques années d'incubation, on a créé une société puisqu'on a vu que le marché en fait appelait à ce type de solution. Et cette solution et cette société est restée dans le giron industriel pendant quelques autres années. C'est un long chemin que je vous décris. Et enfin, en 2025, on a fait ce qu'on appelle un carve-out, donc une sortie du groupe industriel de départ. Et on a été rejoint par un investisseur indépendant qui nous a donné notre stature aujourd'hui de société autonome, indépendante et normale, dirais-je, sur le marché.
Société classique.
Classique.
C'est hyper intéressant parce que cet intrapreneuriat, Laurent, vous qui avez accompagné tout cela au fil des étapes qui sont nombreuses, on l'a dit, parce que on évite les risques comme ça. Ça prend du temps, évidemment, d'observer, de grandir à son temps. C'est intéressant parce que... En effet, ça permet de développer des projets qui sont quand même assez vertigineux, très utiles pour la société, mais en limitant ses risques, Laurent.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'intérêt de l'intrapreneuriat, c'est pour un projet donc, qui est porté par des porteurs de projets, c'est comme ça qu'on les nomme, ça leur permet de bénéficier des compétences, des ressources matérielles, ressources financières, ouais. Ressources humaines, et de pousser le projet dans ses premières années. Et c'est grâce aussi à toutes ces conditions, ce qu'on appelle l'écosystème interne du groupe, que Auris a pu se développer. Alors, c'est pas sans poser quelques difficultés parfois, puisque le rythme de fonctionnement d'un grand groupe n'est pas celui d'une jeune start-up ambitieuse, flexible, agile, telle que Auris. Et donc, c'est vrai que avec Nicolas, on a dû travailler pour faire en sorte que cette coexistence puisse se faire. Et il y a des aspects qui sont pas uniquement d'ailleurs juridiques, business, mais c'est un peu politique. Et ça a été un peu le travail qu'on a fait avec Nicolas pendant quelques temps. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif.
Non.
C'est normal. C'est l'horizon de temps d'un groupe, c'est 3 ans, hein, le retour sur investissement. Un projet comme Auris, c'est minimum 5 ans. D'autant que Auris est en avance sur son temps. Donc c'est l'arrivée sur le marché. L'acculturation des intervenants prend forcément du temps.
Et peut-être la différence de rythme, on l'a dit, vous faire de la place, vous laisser le temps. J'ai lu en préparant l'émission que vous aviez dit que pour arriver à cette entreprise, vous aviez testé, vous étiez planté, vous avez recommencé. C'est ça aussi finalement l'intérêt d'être dans ce type de structure au départ.
Oui, absolument. Et c'est une des grandes différences. Enfin, pendant quelques années, on est appelé à parler deux langages en permanence. Un langage... plutôt en contrôle du risque dans des sphères corporate, hein, bien sûr, Et puis, dans des sphères plutôt de start-up ou de démarrage d'activité, on doit prendre du risque, on doit tester des choses, échouer, recommencer, se relever. Et on est toujours dans ces phases-là, en fait, en permanence, rebondir sur l'apprentissage que l'on fait. Donc, ces deux langages, à un moment, doivent se séparer de façon à laisser l'entièreté de l'espace à la prise de risque, à l'agilité et à la vitesse.
Oui, j'allais dire, en tant qu'entrepreneur, après, à part entière, il faut prendre du risque. À quel moment on prend cette décision, Laurent, de sortir de l'incubation, finalement? Quels critères il faut aligner pour se dire, là, c'est le moment?
Je pense que, en fait, il faut être deux. Il faut que le groupe soit d'accord. Il faut que les porteurs de projet en aient aussi le souhait, la volonté. Et puis, il faut aussi trouver un partenaire financier. Je pense qu'on peut le citer, d'ailleurs, peut-être Nicolas.
Oui, absolument. On a été rejoint par le fonds Liberset, qui est un family office. Peut-être un mot sur la raison pour laquelle ils nous ont rejoints. En plus d'être un entrepreneur comme nous et d'avoir des visions communes, Liberset a une thèse d'investissement autour de la ressource, autour de préserver des capacités en ressources énergétiques, en ressources de construction et de matériaux, en ressources alimentaires. Et donc, ce qu'on proposait, en fait, a résonné assez vite. Et on a trouvé un vrai partenaire par rapport à notre mission.
Alors, il fallait trouver un partenaire de ce genre pour sortir de l'incubation, ou c'est l'inverse, vous l'avez rencontré et cela a donné le top départ à cette décision-là?
Je pense qu'on avait... Alors, tout ça s'est fait un peu concomitamment,
oui.
Mais on avait d'abord amorcé la question d'une croissance et d'un accompagnement par un investisseur. Or, pour les questions d'investissement, précisément, les grands groupes sont difficilement compatibles avec un investissement parallèle, en fait. Donc, les fonds ou les family office, ou quelle que soit leur nature, sont un peu réticents à rejoindre un grand groupe et donc, entre guillemets, à perdre un peu de leur capacité, de leur autonomie aussi. Et donc, à nouveau, la question de la séparation se reposait. Mais le déclencheur, en fait, a été une décision de s'ouvrir au marché et d'offrir au marché plus de capacités et donc de grandir. Et donc, l'équation qui en a découlé, en fait, était celle-ci. Laurent nous a beaucoup aidé dans cette phase également, puisque l'accompagnement n'était pas que juridique, c'était vraiment du conseil aussi sur la base d'expériences, d'autres expériences du même type.
Alors justement, juridiquement, ça implique quoi de sortir de l'incubation? On se met à travailler sur quoi?
L'objectif de cette sortie d'incubation, c'est de donner des gages sur le fait que les créanciers c'est qui? Ce sont les créanciers financiers,
oui.
Les salariés, les fournisseurs, et l'assurance que la pérennité de la société va être assurée après la sortie du groupe. C'est la raison pour laquelle on a dû discuter finalement à trois. Il y avait les porteurs de projet, il y avait le groupe, et puis ce partenaire financier, et tous les trois, et sous l'égide d'un conciliateur, d'une conciliatrice en l'occurrence, et qui est donc nommée par décision de justice et qui agit sous l'égide de l'autorité judiciaire, on a trouvé une solution qui s'est traduite par un protocole et qui a permis en réalité de faire une sortie du capital du groupe et qui a permis donc à la société Auris de prendre son indépendance capitalistique avec l'arrivée dans son capital de Liberset, et pour assurer son soutien financier et sa pérennité pendant les prochaines années, le temps qu'elle assure complètement son développement et son autonomie financière.
Et là, on reste dans cet état de fait pour un peu retomber sur ses pattes pendant quoi? Un an, deux ans? Parce que la création, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 2021. Là, on met des bases solides et on travaille dessus pendant combien de temps avant de passer à la prochaine étape?
Alors là, notre horizon de 2-3 ans, c'est un horizon de consolidation, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et également d'atterrissage sur un marché qui est en cours de constitution. Laurent l'a cité tout à l'heure. On a été un peu en avance de phase dès le départ, et c'est ce qui nous porte aujourd'hui, puisqu'on est visible comme une des quelques sociétés au niveau mondial qui sont capables de faire ça avec le niveau d'intégration que l'on a et le niveau de performance que l'on offre. Et donc, le marché, lui, est en train d'atterrir. Et comme c'est un marché que j'ai décrit tout à l'heure dans ces phases qui sont c'est un marché qui est descendant depuis des autorités financières internationales jusqu'à des autorités nationales donneurs d'ordre qui instruisent des ingénieries, qui instruisent eux-mêmes des constructeurs. Tout ça est très descendant et petit à petit, on observe que le marché est naissant, s'étoffe et on a de plus en plus de demandes et on est par nature internationaux. Donc l'atterrissage, on est en plein dedans avec de très belles perspectives, des beaux partenariats avec des sociétés d'ingénierie, avec des banques de développement, avec également une agence des Nations Unies. Donc tout ça est en train de prendre forme. Pour une phase, et là je réponds enfin à votre question,
oui.
Une phase qui sera la phase suivante d'accélération, une fois que les fondamentaux seront très en place.
Je vais revenir sur 2023-2024, parce que vous décidez de faire votre entreprise une société à mission. Pourquoi vous prenez cette décision-là et qu'est-ce que ça implique, Laurent, vous allez nous expliquer derrière.
Oui, alors ça c'est très intéressant parce que la société à mission, en fait, on l'a engagée alors même qu'on n'avait pas encore fait le carve-out, c'était oui. En 2024. Et c'était une première phase pour laquelle Laurent et ses collègues nous ont accompagnés, puisqu'il s'agissait là d'incarner notre raison d'être, au sens vraiment pratique, puisque notre mission est articulée autour de quatre objectifs, que je vais vous citer rapidement.
Bien sûr.
Le premier, c'est de digitaliser le monde de la construction d'infrastructures. Ce monde est un peu en retard par rapport à d'autres, si on compare à de l'automobile, à du manufacturier, on est très en retard. Bon, donc digitaliser le monde de la construction, c'est un premier objectif. Le second, c'est de minimiser les impacts environnementaux, qui sont nombreux, puisqu'on parle de voies ferrées, autoroutes, ponts, tunnels, enfin tout ce qui fait un peu hurler parfois. Eh bien, en fait, on peut optimiser ça, rationaliser ça et minimiser l'impact environnemental. Le troisième objectif, c'est de maximiser l'impact social de ces infrastructures. Et là, on va s'adresser plutôt à des réseaux secondaires, du financement d'infrastructures à vocation plus socio-économique, qui est un chapitre très important, qui aussi est permis par le numérique, avec la combinaison de facteurs qui sont complexes. Et enfin, le quatrième objectif, et là on retrouve vraiment un fondamental de notre naissance, c'est de constituer une société dont la croissance est équitable. Équitable pour nos salariés, pour les gens qui nous ont fait confiance, qui sont arrivés avec nous, équitable aussi pour nos clients et nos partenaires. C'est-à-dire, on veut, par ce que l'on fait, puisque c'est raisonnablement positif ce que l'on fait quand même, on peut se réjouir de ça, mais on veut aussi que ceci soit partagé avec nos clients, nos partenaires et les gens qui acceptent.
Il y a une redistribution, c'est
voilà.
Ce que vous voulez dire.
Alors, c'est aussi dans les fonctionnements, oui. dans les modes de travaux, etc., où on va montrer peut-être plus d'attention à ce que l'on fait et aux résultats.
Bon, c'est bien parce que Laurent vous suit depuis le départ et j'imagine qu'effectivement dans l'essence de l'entreprise en elle-même c'est parfaitement logique, mais enfin ça rajoute quelques couches de contraintes, de documentation juridiquement à faire et à construire au fil des années.
En réalité, c'est pas si compliqué que ça, oui. Parce que être une société à mission sur le plan juridique, l'objectif c'est d'abord d'afficher une volonté effectivement de remplir ces objectifs de digitalisation du marché qu'adresse Auris, l'environnement, etc. Donc ces objectifs figurent dans les statuts, ils figurent également sur le CABIS. Un comité de mission ou un référent de mission selon la taille de la société doit établir un rapport annuel qui est joint au rapport de gestion de la direction de la société et ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, est chargé de vérifier que ces objectifs sont atteints. Ou s'ils ne sont pas atteints, dans quelle mesure ils ne sont pas atteints, ou s'ils ont été dépassés, qu'ils ont été dépassés. Et c'est ce en quoi consiste, en fait, l'idée d'être une société à mission. Et comme le disait Nicolas, c'est très fédérateur, parce que ça envoie un message, en réalité, au marché, ça envoie un message aux clients, et ça envoie aussi un message aux salariés. Et qui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en quête de sens, et bien, le fait d'être une société en mission permet de répondre à ce besoin, surtout sur un marché lié à l'environnement, à la digitalisation, etc.
Je fais un pas de côté, mais c'est vrai qu'entendre que tout cela est important, qu'on fait une société à mission, qu'il y a une logique là-dedans, dans un contexte international où la RSE est un peu passée en dessous de tous les dossiers, ça fait quand même du bien de l'entendre.
Oui, ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de le vivre surtout.
Ouais.
Puisque alors, je complète peut-être un mot sur cette ETI et cette audit. On a eu notre premier audit ces derniers mois, qui s'est passé avec succès. Enfin, on a pu entendre en fait qu'il y avait un alignement qui était très fort entre ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et là, j'en profite pour saluer toutes les équipes d'Auris et les remercier, parce qu'en fait, on a chez Auris des équipes vraiment talentueuses sur le plan éducation, sur le plan professionnel, sur le plan éthique. Et chacun nous a rejoint exactement, comme disait Laurent, pour le sens que ça donne au travail.
Ça donne une attractivité à l'entreprise, une réelle attractivité dans les équipes. Du moment où vous êtes sorti de l'incubation à aujourd'hui, la masse salariale, elle a monté de quelle façon? Vous êtes combien aujourd'hui, Choris?
Alors, on est 38 aujourd'hui, précisément. Ce qui est assez important pour des travaux numériques tels qu'on adresse. Enfin, ça nous donne une capacité, une force de frappe assez remarquable dans l'étape de consolidation où on est. Bien sûr, on a des ambitions de croissance dans le futur, mais tout ça est assez... tracer une courbe aujourd'hui dans le numérique de croissance des employés, c'est quelque chose qui n'est pas simple,
oui.
Avec l'émergence de l'IA, bien entendu, qu'on met à profit, nous, pour accélérer nos développements, notre capacité de répondre et donner un produit qui est toujours le plus juste possible, pas simplement dans la justesse des calculs, mais le plus juste possible dans la façon d'adresser ces problèmes complexes.
Comment ça va s'inscrire? Est-ce que ça va changer justement un petit peu soit l'activité, soit la mission que vous vous donnez, soit avoir des impacts sur les embauches, justement, cette intelligence artificielle? Quand on analyse les données et qu'on optimise finalement les chantiers, j'imagine qu'on doit chercher la meilleure façon de l'utiliser aussi.
Oui. Oui, tout à fait. Mais à nouveau, comme je disais tout à l'heure, dans ces grands projets d'infrastructure, la problématique principale, ce sont les matériaux. Et ces matériaux sont assez peu... la connaissance des matériaux. D'ailleurs, vous avez noté Auris Materials Intelligence.
Oui.
Donc l'intelligence, c'est pas que l'intelligence, c'est vraiment la connaissance aussi.
Oui.
Et donc la connaissance de ces matériaux est peu partagée. Et donc c'est grâce au numérique. L'IA, ici, est un accélérateur... phénoménal, en fait, de notre capacité à comprendre, connaître, intégrer, calculer, vraiment avec une finesse qui n'existait pas jusqu'alors. Vous êtes peut-être familière du BIM, donc le BIM, c'est le BIM Information Modeling, Building Information Modeling, pardon, qui est la maquette numérique qui s'adresse à tous les projets avant de les construire.
D'accord.
En fait, cette maquette numérique, nous, on vient l'additionner d'une couche développement durable, impact environnemental, qu'on appelle une dimension environnementale. Le BIM, c'est une série de dimensions. Vous avez le prix, le coût, le temps, etc. Et donc, on vient ajouter cette couche environnementale au modèle BIM. Et donc, là aussi, l'IA nous permet de faire des rapprochements qui étaient difficile à faire auparavant.
On arrive presque à la fin de l'émission. J'aimerais savoir l'ambition pour la suite. Vous parliez tout à l'heure des pays étrangers. Est-ce que vous êtes concurrencé en Europe sur ce que vous faites précisément, ou on est en train d'assister à la naissance d'un champion européen de la donnée de ces chantiers, et finalement, avec le temps, on arrivera à avoir des géants dans ce type spécifique d'activité?
Eh bien, je l'espère.
C'est l'idée.
Tout d'abord, je l'espère. En fait, comme nos premiers clients ont été plutôt des instances internationales, on est né vraiment à l'international et pas simplement en Europe. On a des projets en Asie, en Afrique. On est aujourd'hui sur une quinzaine de pays. Donc, il y a vraiment cette dimension internationale qui est portée par des agences et des institutions financières qui sont supranationales par définition et qui nous emmènent avec eux dans différents endroits. Donc, notre volonté, c'est évidemment de continuer ce chemin auprès d'eux, mais aussi d'atterrir dans quelques géographies ciblées cette fois-ci. Et là, on est naturellement en Europe. Très très actif sur l'Europe du Nord, la France, l'Allemagne, les Nordiques, l'Angleterre, et puis petit à petit en conquête de toute l'Europe sur ces aspects-là.
Il va y avoir beaucoup de contrats à rédiger et d'accompagnement à faire dans les prochaines années.
J'ai l'impression, tant mieux.
Vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs, d'être venus dans cette émission consacrée à la croissance d'Auris. Nicolas Miraval, CEO d'Auris Materials Intelligence, et Laurent Julienne, associé chez Lérin. Ces missions à retrouver à 12h30 et bien sûr en podcast et en replay. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprise, croissance, la stratégie sur BFM Business.